Il y a cette magnifique équipe.
Alors on va bien évidemment rester sur le thème de Noël avec un regard particulier que je vous propose ce matin. Alors il y a quelque temps, alors que je discutais avec Samuel Zagré et qu'il revenait d'un match de football, je lui demande « Est-ce que tu as marqué un but ?» N'est-ce pas, les buts c'est important dans un match de football. Et il m'a répondu « Non, je n'ai pas marqué, mais j'ai fait une passe décisive. » C'est curieux, cette phrase qu'il m'a faite, « J'ai fait une passe décisive », elle m'a marqué durablement. Et j'y pense régulièrement, donc tu pourras lui dire à Samuel. En fait, faire une passe décisive, alors pour ceux qui ne sont pas passionnés par les sports collectifs, c'est effectivement de faire une passe qui permet à l'autre facilement de marquer un but. Alors souvent, on voit le buteur au final, et on voit moins celui qui a fait la passe décisive. Par contre, sans la passe décisive, il n'y aurait pas eu ce but. Et puis, donc, c'est l'adjectif décisif ce matin que j'aimerais retenir pour nous. Parce qu'il y a dans la vie des passes décisives. À un moment donné, peut-être quelqu'un vous a fait une passe décisive pour faire une étape de plus. C'était peut-être le cas de ce Miguel qui, à un moment donné, a parlé de Jésus-Christ à ce couple-là. Et peut-être que c'était une passe décisive pour que ce couple un jour découvre la foi. Et sans doute que c'était la prière de ce Miguel par la suite. Il y a dans la vie également des rencontres décisives. Hein, et puis petit à petit, on va arriver au message de Noël. Des rencontres décisives. Et je vais vous en citer quelques-unes et après je vous poserai une question. Des rencontres décisives, il y a, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, l'histoire de Moïse. Moïse, dans son jeune âge, a vécu une rencontre décisive avec la fille de Pharaon. Effectivement, sans cette rencontre décisive, alors il n'y était pour rien, hein, mais cette princesse l'a pris en charge, lui a fait son éducation, qui allait bien lui servir beaucoup plus tard dans son ministère. Des rencontres décisives. Il y a, bien sûr, toujours dans la Bible, cette histoire de Ruth et de Ruth la Moabite et de Naomi, vous savez, cette femme israélite qui est partie de son pays et avec ses fils et son mari, et les fils ont rencontré des épouses dans le pays où ils se sont retrouvés. Et puis cette Ruth ne connaissait pas du tout la foi du peuple d'Israël. Et à un moment donné, il y a eu cette rencontre décisive, sans doute avec son mari, sans doute avec son beau-père, mais qui sont tous décédés par la suite. Et puis il y a eu cette rencontre décisive avec Noémie, sa belle-mère, l'histoire extraordinaire d'une femme étrangère au peuple d'Israël qui finalement va embrasser la foi du peuple d'Israël et suite à cette rencontre décisive, elle va en vivre d'autres et finalement elle va être dans la descendance de Jésus-Christ. Et quand on lit la généalogie de Jésus-Christ, on va réaliser que de cette rencontre décisive, finalement, on va retrouver Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ. Ah, on dit même que le footballeur Lionel Messi est devenu l'un des meilleurs footballeurs au monde grâce à sa grand-mère. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il marque un but, c'est le même rituel. Lionel Messi lève sa tête et pointe ses doigts vers le ciel en hommage à sa grand-mère. Mais pourquoi ? Parce que c'est sa grand-mère qui l'a emmené au terrain de foot, qui a insisté pour qu'il devienne footballeur, parce que visiblement il avait quelques fragilités qu'on a totalement oubliées depuis. Donc finalement, cette rencontre décisive de Lionel Messi avec sa grand-mère va tout changer dans son cheminement. Et nous avons tous été marqués par, à un moment donné, une ou plusieurs rencontres qui ont été décisives pour notre vie. Lorsque j'ai rencontré Virginie, c'était une rencontre décisive pour ma vie. Lorsque j'ai rencontré la personne qui m'a recruté à l'ENSAIA, c'était une rencontre décisive. Et en fait, en réfléchissant bien, nous avons tous vécu à un moment donné des rencontres décisives qui ont changé notre vie. Sans doute que lorsque l'Église d'ici a recruté Jean-Haut comme pasteur, c'était là une rencontre décisive pour l'Église et probablement pour Jean-Haut. Des rencontres décisives finalement de personnes qui vont marquer durablement notre vie. Est-ce que qui d'entre vous a déjà eu à un moment donné dans sa vie une rencontre décisive. Levez la main. En fait, tout le monde a déjà eu des rencontres décisives. Alors parfois, on est en attente de rencontres décisives qui ne se réalisent pas. Récemment, tout un ensemble de personnes de notre pays, vêtues d'un petit gilet jaune, ont souhaité une rencontre décisive avec le président du même pays. Ça ne s'est pas vraiment fait comme... La rencontre n'a pas été complètement décisive pour tout le monde. Donc parfois, on est également trompé dans les rencontres que l'on souhaite avoir. Ou alors on s'attend à quelque chose qui n'est pas possible. Mais dans bien des cas, il y a des rencontres décisives qui vont marquer notre vie. Et ce matin, je voudrais rappeler à chacune et chacun d'entre nous que Noël, c'est d'abord et avant tout une rencontre décisive, sans précédent, entre Dieu et l'humanité. Dans un des derniers chants qu'on a chanté, on a évoqué que le roi des cieux, qu'il descende vers nous. Et c'est ce qui s'est passé réellement le jour de Noël. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ parmi les hommes, parmi nous. Alors c'est une rencontre qui ne doit rien au hasard, elle a été programmée de longue date. Il y a les prophètes Ésaïe qui dit dans Ésaïe 9, « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. » Et un peu plus tard, il parlera de merveilleux conseiller, de Dieu fort, de Père à jamais, de Prince de la paix, qui donnera la paix, qui durera toujours au trône de David, etc. Et puis même avant la naissance de Jésus, sa maman Marie, elle dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur » dans Luc 1. « Mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, alors je ne vais pas tout lire, hein. Il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple. Et en fait, Jésus-Christ est venu dans le monde pour témoigner de la bonté de Dieu à son peuple. Et on va se rendre compte ce matin, à travers quelques exemples, combien cette rencontre avec Jésus-Christ a été décisive pour tout un ensemble de personnages. Alors d'abord, Jésus bébé. Jésus bébé dans une crèche, plusieurs personnes l'ont rencontré et cette rencontre a été décisive pour eux. Curieux, n'est-ce pas? Alors la semaine dernière, c'était un de nos sujets d'études bibliques dans un des groupes où nous étions. Alors il y a déjà ces bergers. Ces bergers, on en a parlé tout à l'heure, on en a même chanté leur histoire. Les bergers qui sont dans les champs à garder leurs brebis. Le chant disait que les brebis étaient blanches, peut-être qu'elles étaient noires, peut-être qu'elles étaient brunes, parce que dans les pays du Sud, les brebis ne sont pas toujours blanches comme chez nous. Hein, mais c'est sans doute un auteur français qui a fait le chant là. Des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Alors les bergers sont allés voir. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont vu Jésus, et c'est là que je voudrais vous attirer votre attention, et on aura la même remarque pour les deux autres personnages qui vont suivre. Les bergers s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont vu un bébé dans une étable peu glorieuse, peu luxuriante, et finalement, ils s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu. On va garder ça à l'esprit. Et puis on a une situation un peu similaire avec un vieillard. La Bible ne dit pas quel est son âge, le vieillard Siméon dans Luc 2, tout ça vous pouvez le retrouver en lisant l'évangile de Luc au chapitre 2, où il est dit que le vieillard Siméon le prit dans ses bras, donc il prend Jésus dans ses bras, parce que c'est le moment où ses parents présentaient Jésus au temple, et Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu, en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Et puis juste après, au verset 38 du même chapitre, il y a une dame âgée également, Anne la prophétesse, où il nous est dit, Luc 2, verset 38, « Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. » Donc finalement, un ensemble de personnages, les bergers, les vieillards, Anne la prophétesse, qui après la rencontre de cet enfant Jésus, qui était encore tout petit dans sa crèche, un peu peut-être comme le bébé qu'on voit là-bas au bout, hein, voilà, le bébé d'Alix. Et puis, ils le voient, les bergers, ils ont cette interpellation des anges. Pour Siméon, il nous est dit qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Pour Anne la prophétesse, elle a réalisé que les promesses de Dieu étaient en train de s'accomplir. Et finalement, rien qu'en voyant l'enfant Jésus, cette rencontre va être décisive. Ils se disent, ça y est, le plan de Dieu est en marche. Le plan de Dieu est en marche. Trois types de personnages différents qui n'avaient pas beaucoup de choses en commun et toutes les trois ont réalisé que, ça y est, la rencontre décisive de Dieu avec l'humanité était en marche. Et puis un peu plus tard, on va se rendre compte en parcourant l'Évangile que la rencontre avec Jésus-Christ est décisive pour ceux qui cherchent des solutions à leurs difficultés, à leurs questions, qui ont besoin de sortir du tunnel. La rencontre avec Jésus-Christ va apporter espoir et assurance. Alors je prends simplement deux exemples. L'exemple de la foule. Dans la Bible, souvent, il est parlé dans les évangiles d'une foule qui venait à la rencontre de Jésus. Une foule qui a soif d'une vie meilleure, une foule qui a soif d'écoute et de réponse. Et dans Luc 6, il est dit par exemple, une foule immense venue de toute la Judée de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon, tous étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force, une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. » Finalement, en rencontrant Jésus, ces femmes et ces hommes qui attendaient une vie meilleure, qui attendaient des réponses à leurs questions, ils vont trouver auprès de Jésus-Christ espoir et assurance. Leur situation n'a pas toujours changé immédiatement, même si beaucoup ont été guéris, même si Jésus a nourri ceux qui avaient faim, mais ils avaient réalisé qu'en Jésus-Christ, il y avait une véritable puissance, la rencontre de Dieu avec l'humanité. Et il y a cet exemple de ce brigand en croix, où il est dit dans Luc 23, l'un des deux criminels attachés sur une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi et pourtant tu subis la même peine. Pour nous ce n'est que justice, nous payons ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Et finalement, la rencontre de Jésus avec ce brigand sur la croix, ils étaient côte à côte. Ce brigand a réalisé qui était Jésus-Christ. Il a réalisé son état de perdition et de mort prochaine. Et il a osé s'adresser à Jésus-Christ. Et suite à cette rencontre décisive, le brigand savait que dans peu de temps, il serait avec Jésus-Christ dans le paradis. La rencontre de Jésus-Christ est décisive pour ceux qui cherchent des solutions à leurs questions, une sortie du tunnel. Elle apporte espoir et assurance et réconfort. Et on verra encore un autre exemple que la rencontre avec Jésus-Christ est décisive pour changer les cœurs. Le prophète Ézéchiel disait dans Ézéchiel 11, Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois, et les appliquent, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. À un moment donné, tout à l'heure, Jean-Haut, dans son introduction, disait que l'Évangile, si nous le vivons, si nous avons une véritable rencontre décisive avec Jésus-Christ, nos attitudes, nos comportements, nos façons de faire, notre accueil de l'autre va changer. Et pas plus tard que hier, le référent de l'Église catholique disait « Arrêtez d'abuser des biens de consommation, allez plus vers le partage. » Il disait ça à son Église. « Je leur donnerai un cœur de chair. » Et puis ça s'est passé. L'Église de Jérusalem, la première Église, vivait le message de Noël. Et dans Acte 2, il est dit « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient assidûment, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Une rencontre de Jésus-Christ avec les premiers chrétiens qui va être décisive. Leur vie va changer, leur comportement va changer. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu un peu comme les bergers, comme le vieillard, comme Anne. La rencontre avec Jésus-Christ est décisive. Elle change les cœurs. Elle change les vies. Elle change les façons de voir. Et les chrétiens ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ lui-même. Et il y a même dans la Bible l'exemple de ce religieux fanatique qui va rencontrer Jésus. Et la rencontre avec Jésus de ce fanatique religieux va changer complètement sa vie. Et vous savez de qui je parle. C'est un homme qui disait « Je suis juif, acte 22, je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître, il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Oui, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul était comme ces religieux fanatiques qui existent encore aujourd'hui dans certaines religions dans le monde. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai, car c'est d'eux précisément que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de faire punir tous les adhérents de cette voie que je trouverai là-bas. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, il y a eu cette rencontre décisive avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est intervenu. Vers midi, une vive lumière a resplendu du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul », c'était son nom avant de s'appeler Paul, « Pourquoi me persécutes-tu ? Persécutes-tu ? » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors la voix m'a dit « Je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Saul a rencontré ce fanatique religieux radicalisé, a rencontré Jésus-Christ, et cette rencontre a été décisive pour sa vie. À partir de là, il est dit, j'ai demandé, donc c'est Saul qui parle, que dois-je donc faire, Seigneur ? Et puis, petit à petit, Paul trouve en Jésus non seulement son sauveur, son libérateur, celui qui l'a délivré de son fanatisme, son plus proche ami. Et il dira dans Philippiens 4, « Je peux tout par grâce à celui qui me fortifie. » Donc finalement, cette rencontre décisive a permis à Saul, ensuite devenu l'apôtre Paul, de rencontrer Jésus-Christ, son sauveur, son ami, son confident, son Seigneur. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et finalement, Paul était prêt à perdre tout parce qu'il avait rencontré Jésus-Christ lors de cette rencontre décisive sur le chemin de Damas. Je voudrais conclure avec un témoignage récent. Et on verra que 2000 ans après, peut-être 2007 ou 2012 ou 2013, hein, ça dépend le... Voilà. En fait, c'est encore vrai. Il y a aujourd'hui encore des rencontres décisives avec Jésus-Christ. Alors, je vais vous la lire. Je vais vous la lire. Une rencontre décisive, donc, c'est un monsieur qui s'appelle Jess. C'est quelqu'un qui a une vie un peu compliquée. Je me retrouve à la prison de Figueras, en Espagne, avec quelques autres Français. Ce n'était pas une affaire grave, j'avais 15 jours ou 3 mois au plus à faire. Il y a eu 3 mois d'incarcération. Un mois et demi à Figueras, puis transfert à Barcelone. À Figueras, j'ai rencontré des gens qui me donnaient des tuyaux pour affaires. Le mauvais business pouvait continuer, une autoroute s'ouvrait devant moi. On rentre en prison voleur d'autoradio, on en ressort braqueur. La prison n'est pas une bonne école de la vie. Mais voilà que je suis transféré à la prison Modelo de Barcelone. Pas vraiment un modèle, c'était le chaos. Pas évident de rentrer dans ces lieux quand on ne connaît personne. Tout le monde est aux aguets, on cherche à voir de quoi on peut te dépouiller. Il y a des clans par quartier de ville. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné le nom de l'un de ses amis. Luis Ufad Caixa. J'ai donné ce nom au fonctionnaire qui me recevait. Il l'a repéré dans son listing et m'a mis dans sa cellule. Il y avait déjà 4 personnes dans cette cellule de 12 mètres carrés. Je n'avais pas demandé ça, je voulais juste savoir s'il le connaissait, car j'avais appris qu'il était respecté. J'ai donc été conduit à la cellule et là, je me suis présenté, me recommandant de la personne qui m'avait parlé de Luis. On m'a invité à boire un café et moi à fumer un joint, le dernier que je possédais. Mais quand je tends le stick en signe d'honneur à Luis, afin qu'il l'allume, au lieu de cela, il prend un livre, la Bible, et me dit qu'il ne fume plus. Au lieu des drogues, il avait désormais la parole de Dieu. Luis et son ami José Luis Benana Bailon s'étaient convertis une quinzaine de jours auparavant. Cela faisait 3 mois qu'ils assistaient à des cultes d'évangélisation à la prison. Ils avaient demandé une cellule, on leur avait donné une pourrie et désaffectée. Ils l'ont aménagée eux-mêmes, il n'y avait que deux lits et les deux autres détenus dormaient par terre sur des matelas. Un de leurs amis qui avait quitté sa cellule leur avait laissé toutes ses affaires. On avait meublé, armoire, lit, réchaud, casserole, etc. Il y avait à peine la place de mettre un matelas pour moi. J'ai passé un mois et demi avec eux. Je me suis mis à lire la Bible tout seul. Ils me disaient « Ton Dieu n'est pas le même que le nôtre, mais tu comprendras plus tard. » Je m'étais pris pour un Jésus, je disais mon évangile à moi. J'étalais ma religiosité, sans jamais mettre le doigt sur mon péché ou sur le mal en général, sur la nécessité d'une justice. Or, au fur et à mesure que je lisais la Bible, je tombais des nues. À quoi te sert tout l'or du monde si tu perds ton âme? J'avais des choses à régler quant à mon rapport à l'argent. Puis il y avait la question de l'occultisme. La Bible est claire à ce sujet. Je me rendais compte que je parlais beaucoup de Dieu en réalité. Je ne le connaissais pas. Quand j'ai lu qu'il dénonçait le mal, le péché, j'ai pris conscience que le Dieu que je suivais, c'était du toc. Du coup, un voile est tombé. Le diable était démasqué, il pouvait bien venir avec son plus beau sourire, tout loup déguisé en agneau, je ne voulais plus être dupe. J'étais un croisement important de ma vie, je pouvais continuer à fricoter avec mes contacts de la prison de Figueras, penser pouvoir développer mon business, autrement dit, asseoir mon statut de grand délinquant, ou tout arrêter. J'avais devant moi les deux plateaux d'une balance, d'un côté la vie de la chair, de l'autre celle de l'esprit. Je pouvais espérer gagner ce monde par la délinquance ou au contraire me dépouiller. Et là, écoutez bien la fin. Je sentais en moi un appel du Seigneur à renoncer à la vie délinquante et à placer ma confiance en lui. Il me donnerait ce dont j'aurais besoin et la vie éternelle. Il fallait à tout prix que je prenne une décision. C'est arrivé 3 jours après que ces passages bibliques aient été lus. Ils avaient fait en moi leur effet. Quand tout devient clair, il ne faut pas hésiter, mais prendre les décisions qui s'imposent. Une rencontre décisive entre Jésus-Christ et Jess en 2010, 12, 13, 14, ça dépend de la manière dont on compte. Noël 2018. Jésus-Christ souhaite vivre une rencontre décisive avec chacune et chacun d'entre nous. Et personne n'a jamais regretté cette rencontre décisive avec Jésus-Christ. S'il y a une personne dans la salle qui n'a pas encore rencontré ou eu l'occasion de vivre cette rencontre décisive avec Jésus-Christ, c'est possible aujourd'hui. Noël, c'est avant tout une rencontre décisive entre notre Dieu Tout-Puissant et l'humanité. Qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Je vous invite à un court moment de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin réaliser encore davantage qui tu es, réaliser encore davantage le don extraordinaire de ce Dieu Tout-Puissant venu à la rencontre de l'humanité, de ces rencontres décisives avec les bergers, de ces rencontres décisives avec ces vieillards, Siméon, Anne, de ces rencontres décisives avec l'Église de Jérusalem, de ces personnes qui ont réalisé que le plus beau des cadeaux était de vivre sa relation avec Jésus-Christ. Cette rencontre décisive avec Saul, ce fanatique religieux qui, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, a compris qu'il pouvait être délivré de lui-même, délivré de la violence, et vivre cette assurance et cette espérance. Nous voulons, Seigneur, aussi nous réaliser qu'aujourd'hui encore, dans des situations que l'on n'attend pas, tu peux changer des cœurs, tu désires venir à la rencontre des uns et des autres, et tu désires, Seigneur, vivre en nous, et nous permettre de vivre cette vie nouvelle en toi. À toi soit la gloire, en Jésus-Christ. Amen.